le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour les amis, me voilà de retour. Voilà, notre ami Nicolas Tarade avait pris le relais. J'animais une conférence pour le Crédit Agricole Immobilier. D'ailleurs, on partagera avec vous les contenus de cette conférence. C'est sur la reconstruction de la ville et une vision stratigraphique de la ville, ce qui est une très bonne chose, surtout si on considère qu'il n'y aura pas d'étalement foncier dans l'avenir pour les métropoles. 17h22, on est toujours en direct sur Territoria et sur Radio Imo. Voilà, on va bientôt finir notre journée de prise de parole, puisque à partir de 18h, on décrochera de l'antenne. Mais vous inquiétez pas, vous avez toujours vos programmes et vous pouvez télécharger les podcasts. Je vous propose qu'on fasse un petit peu le verbatim de cette journée, un petit bilan, voilà, conversationnel. Il manque plus qu'un verre pour en discuter autour de nous, mais ça va pas tarder.
On va le trouver.
On va le trouver. Voilà, j'ai le plaisir d'être ici avec notre hôte qui nous a permis effectivement d'être ici au congrès de l'USH, donc l'Union sociale pour l'habitat, le 81e congrès, Yannick Borde, le président de Procivis.
Bonjour.
Comment ça va, Yannick ?
Écoutez, c'est une journée, une première journée très, très riche et très dense. Comme toujours, les journées de congrès sont un peu, on finit un peu sur les rotules quand même hein, le soir, en général.
Vous avez mouillé la chemise aujourd'hui, je vous ai vu faire.
On a mouillé la chemise, il y a aussi beaucoup de dirigeants du réseau, donc c'est l'occasion de faire un point avec eux et de les rencontrer. Il y a pas mal de sollicitations, mais c'est un grand plaisir d'être là. D'abord, un grand plaisir de retrouver le congrès sous sa forme habituelle. Et je suis très surpris d'ailleurs par l'affluence, où il y a énormément de monde, ce qui veut dire que les gens avaient besoin de ce moment aussi. C'est blindé de monde, c'est respectueux de toutes les consignes sanitaires, donc je pense que là aussi c'est à souligner. Absolument. Et ça témoigne souvent, surtout que les gens avaient cette envie de revenir discuter, de revenir partager ce moment, et puis d'être aussi, on est aussi dans un moment où... où la question du logement est quand même sur la table de façon importante, à l'aube d'une campagne présidentielle. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait ce temps d'échange de façon très, très puissante et très forte.
Alors justement, un temps d'échange fondamental et important, mais aussi, il faut le rappeler, c'est symbolique. Hein, on est quand même à 7 mois d'une élection majeure. Et ça fait 2 ans que les personnes ne se sont pas rencontrées. Donc on a bien vu l'importance que ça a justement là-dessus. Alors je ne peux pas ne pas vous poser cette question, Yannick, puisque vous avez reçu ici sur votre plateau le président, pas le président, ça aurait pu être le président, mais le Premier ministre Jean Castex, ainsi que la ministre du Logement, qui était accompagnée d'ailleurs du député Nogal, Michael Nogal. Vous avez écouté les annonces qui ont été faites. Point de vue.
Bon, objectivement. Objectivement, alors d'abord, ce qu'il faut souligner quand même, c'est d'avoir un Premier ministre sur le congrès HLM, c'est pas à chaque fois, c'est pas tous les ans.
C'est clair.
Donc c'est un moment malgré tout qu'il faut saluer. Après, sur le contenu, on a eu un peu une déclaration d'amour de principe, on va dire, en disant que le monde HLM était essentiel, en disant qu'on était une composante du pacte républicain. Bon, j'aurais tendance à dire ça, on s'attendait un minimum à ça. Après, il y a quelques annonces, assez peu, qui sont pour la plupart issues de la commission Rebsamen. L'une peut-être essentielle qui était attendue par le mouvement, c'est la question de l'exonération de la taxe de la TFPB. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y avait une attente, elle est remplie. Après, il y a quelques déceptions. Moi, j'en ai une parce que c'est la particularité de notre réseau d'être positionné sur l'accession à la propriété. On n'a pas attendu une seule fois l'expression accession à la propriété et encore moins accession sociale à la propriété. Bon, voilà, donc on a...
Même dans la substance des annonces, on s'attendait à des faits marquants.
Oui, il n'y a rien de percutant.
Finalement, à part la déclaration d'amour au logement social, parce qu'il faut reconnaître que voilà, Jean Castex a reconnu enfin, peut-être, je ne sais pas s'il y a un calcul politique, mais l'utilité du logement social, pour le dire.
Oui, alors, ce qui est intéressant aussi, on verra ce que les semaines et les jours à venir nous réservent, mais... on a partagé aussi le diagnostic. C'est-à-dire, on a un Premier ministre qui nous a dit que la situation n'est pas bonne. La situation de la construction de logements n'est pas bonne. Tous les professionnels savent ça, mais l'un des plus grands dirigeants politiques de notre pays le dise sur cette forme-là, je pense que ce n'est pas complètement innocent non plus. Donc, et c'est intéressant. Donc, au moins, il y a ce moment-là de partage. Après, c'est vrai que les annonces qui ont été faites ce matin, qui sont pour la plupart issues de la commission Rebsamen, moi je ne les trouve pas transcendantes et je ne les trouve pas nécessairement en phase avec l'importance de la relance de l'offre.
Il faut rappeler, hein, 13 propositions ont été formulées.
13 propositions, alors effectivement...
Et d'ailleurs, Procivis, je crois que vous en avez fait 3.
Hein, on en a 3 qui sont retenues, il y en a 4 qui ne l'ont pas été. Alors les 4 qu'on a... qui n'ont pas été, on va les remettre sur la table parce que c'est plus des propositions de campagne présidentielle à mon avis et de mandat présidentiel suivant, notamment la question du zonage que j'ai eu l'occasion de débattre 2-3 minutes avec le Premier ministre sur le stand quand il est passé. Mais voilà, je ne sens pas moi nécessairement dans les annonces qui ont été faites ce matin l'élément qui va tout de suite permettre de décoincer l'offre, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur un marché quand même où la demande est forte quand même à des... Quand il y a des crises, souvent, ça y a un problème de crise de la demande. Nous, c'est une crise de l'offre. Donc,
et pourtant, Emmanuel Wargon, avec effectivement l'aval du Premier ministre, vous promet 250 000 accréditations.
Oui, alors 250 000 logements sociaux sur 2 ans, 100 000 cette année, 150 l'année prochaine. Je pense qu'on aura du mal à être aux 100 000 cette année. Après, il faut essayer de voir les facteurs.
Tous
les
facteurs. Vous n'y croyez pas ?
Non, je pense que ça sera très, très difficile à tenir. Ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas un problème d'opérateurs, puisque les opérateurs que nous sommes, on a envie, nous, de construire. C'est notre objet social.
Bien sûr.
Donc après, aujourd'hui, il y a par moments des...
Mais d'où vient la contrainte, Yannick?
La contrainte, elle vient à la fois des impacts financiers quand même qu'on tapait sur le logement, sur ce mandat présidentiel, la RLS, notamment, pour le locatif social. Sur l'accession à la propriété, c'est un petit peu moins concerné. On n'est pas concerné par les 250 000.
Et la réforme des APL?
La réforme de l'APL, la suppression de l'APL accession. Donc il y a tout un tas de facteurs comme ça qui sont tous les uns les autres cumulés quand même, qui font que ce mandat sera un mandat très compliqué pour le logement. Et on est dans un secteur d'activité, nous, qui a besoin de temps long et qui a besoin de confiance.
Mais pourquoi alors, ok, bon.
Et on ne l'a pas nécessairement eu tout au long
pourquoi
de ce mandat.
Pourquoi annoncer un objectif aussi ambitieux si effectivement, tel qu'on vous écoute, on n'a pas les éléments nécessaires, les outils nécessaires pour le faire?
Alors,
quoi l'intérêt d'annoncer 110 000 logements cette année, 110 000 l'année prochaine, enfin pour qu'il y ait 250 000 habilitations pour le logement social, je répète, alors que là on peine à atteindre les 90 000 là,
hein. On était à moins de 90 000 en 2020, on sera cette année on annonce 100 000, je pense qu'on aura du mal à y être. Alors pourquoi les annonces? Je pense que quand vous êtes à un moment donné dans des négociations un peu rudes entre des opérateurs, des acteurs et l'État, faut savoir qui s'engage sur quoi. Et le logement HLM, quand on lui dit faut construire, il n'a pas de mal à dire oui, ok, faut construire, on est prêt, nous. Donc nous, on sait faire les 250 000. Après, pour faire les 250 000, il faut, une volonté politique qui est très loin d'être présente sur tout le territoire de façon homogène. 2, des moyens financiers qui ont été pour une part impactés par les mesures qui ont été prises depuis 4 ans et qui malgré tout freinent les organismes HLM, en tout cas les font hésiter, même si en contrepartie, notamment via la Banque des Territoires, il y a un certain nombre d'outils complémentaires financiers qui ont été mis en place. Mais on a quand même une vraie difficulté à ce niveau-là. Et puis derrière est venu se rajouter à la fois la crise sanitaire, vient se rajouter le contexte des élections municipales de 2020, vient se rajouter aujourd'hui la problématique des coûts de construction. Voilà, donc l'envie, elle est là, la dynamique, elle est présente, la compétence et les moyens internes des organismes sont en grande partie présents, mais il faut aussi que tout le monde, on n'est nous qu'un maillon, c'est-à-dire que si demain la collectivité locale ne souhaite pas, pour une raison ou une autre, que ça construise sur son territoire, il n'y aura pas de construction sur le territoire. L'organisme HLM, il pèse jamais, très rarement, en force face à une collectivité locale réticente. Donc voilà, les planètes ne sont pas complètement alignées encore avec tous les acteurs qui sont nécessaires pour que les choses se passent à ce niveau de production.
Donc si je comprends bien, alors je ne vais pas penser à votre place, hein, ce n'est pas le but, mais finalement, ce qui se profile, c'est un discours politique en vue d'une période électorale.
On n'est pas dupe.
On ne peut pas le qualifier autrement.
On n'est pas dupe. Il y a une campagne électorale qui s'annonce.
Bon, est-ce que le rapport Rebsamen qui a été... dont on peut lui donner d'ailleurs plutôt des lettres de noblesse. Encore faut-il une chose. Bon, à 7 mois des présidentielles, oui, on peut en parler. Mais ça verra le jour?
Oui, je pense que ça verra le jour parce que d'abord...
Dans le PLF
dans le PLF, verra le jour dans le PLF la question, je pense, de la TFPB. Le Premier ministre a été très clair ce matin. Il a dit il n'y a pas de remise en cause de l'exonération de TFPB des bailleurs sociaux. Par contre, pour ne pas que les communes soient réticentes...
C'est important ce que vous dites.
Il y a une compensation... des communes qui seraient bénéficiaires de la taxe foncière pour toute la production de logements sociaux, a priori PSL a compris, 2021-2026, c'est-à-dire le mandat des élus locaux. Ça veut dire que l'argument que pouvait employer un élu local en disant avec la suppression de la taxe d'habitation, si en plus je dois faire du logement qui ne me rapporte pas de la taxe foncière, je suis dans une perte de dynamique fiscale. Aujourd'hui, la taxe d'habitation est compensée. Il n'y a pas de dynamique, mais elle est compensée. Et l'exonération de taxe foncière, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, sera compensée en cas de production de logements sociaux. Donc ça, c'est une annonce qui doit trouver nécessairement sa place dans le PLF. Si elle n'est pas dans le PLF, c'est que je pense que ce matin, on aurait eu quand même une drôle d'annonce. Donc c'est la seule vraie annonce de la matinée, hein, très clairement, la seule concrète.
Plutôt pas mal, hein, pour le coup.
Plutôt pas mal. Moi, qui suis aussi un peu élu local, comme vous le savez, je ne croyais pas trop à cet engagement de compensation. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent octer un peu sur le sujet en ce moment.
Il l'a dit, il va le faire.
Voilà. Le Premier ministre annonce ce matin, il le présente comme une annonce, donc pour nous c'est considéré comme, ça sera dans le PLF, on ira voir les petites lignes s'il y a des pièges sur les petites lignes, ça sera, je crois.
Vous êtes entretenu avec lui.
On s'est entretenu,
il est venu
sur le stand.
Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
On s'est entretenu sur, j'ai repris une phrase des propos qu'il a tenus que moi j'essaie de combattre, c'est la notion de marché tendu et de marché détendu. Parce qu'à un moment donné, il a annoncé que par exemple, les 150 millions qui étaient programmés pour aider les maires bâtisseurs et qui n'avaient pas l'air de prendre, il allait les réfléchir sur les marchés tendus. Moi je lui ai dit que c'était quand même une notion qui était un peu datée aujourd'hui, puisque quand on regarde le marché immobilier aujourd'hui, on a l'impression que dans les 35 000 communes de France, il y a des prix qui montent et des difficultés à se loger. Bien évidemment, la problématique, elle est absolument pas la même entre les communes rurales, les communes moyennes, l'Île-de-France, etc. Mais cette notion de marché tendu, détendu, moi, elle me déplaît parce que derrière, détendu, beaucoup mettent « il ne se passe rien ou il n'y a pas de besoin ». Ce qui n'est pas vrai. Il y a d'autres formes de besoins. Donc, moi, je l'ai interpellé sur ce point-là et je l'ai interpellé aussi sur quelque chose qui ne peut absolument pas être mis sur la table avant une élection présidentielle. Par contre, qu'on mettra, nous, dans la campagne et qu'on espère mettre sur la table dès que l'élection présidentielle sera faite avec le ministre du Logement qui suivra, c'est la question du zonage, dont il a reconnu, lui, en tant que maire ou ancien maire d'une commune rurale, que c'était aussi quelque chose qui était aujourd'hui plus adapté. Et quand on est à Prades, qui était la commune dont il a été maire, il a bien en zone C, il a bien conscience que c'est difficile de faire porter des projets s'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus fin dans l'approche. Donc marché tendu et zonage.
On a eu l'impression, hein, il n'a pas dit comme ça, hein, mais que la suppression du zonage était entendue.
Oui, c'est quelque chose, je pense qu'il a... Mais de
il
ne
l'a pas dit. Hein,
il l'a pas dit, non. Il n'est pas question de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que c'était quelque chose qui était sur la table. C'est-à-dire qu'il partage, notamment de par ses origines aussi, territoriales, que c'est quelque chose qui n'est absolument pas adapté.
Il y a été confronté.
Été confronté, je pense que ses successeurs sont confrontés. Aujourd'hui, toute la zone C,
parce
elle souffre.
C'est quand même une mesure d'exclusion, ce zonage.
Oui, c'est une mesure d'exclusion.
Saint-Berthevin, votre commune.
B2.
Ah oui.
On est en zone B2.
Donc
ça va encore.
Non mais vous seriez en zone C ?
On serait en zone C, on n'aurait rien. Mais on voit beaucoup de villes moyennes. Si je vais faire le territoire où je suis acteur, je prends l'exemple d'une commune comme Château-Gontier, une commune de 15 000 habitants, zone C, commune assez dynamique sur le plan économique, située entre Laval et Angers, quasiment, pas tout à fait équidistante, mais accessible des deux côtés, et dont le maire Philippe Henry, que je connais bien, me dit assez régulièrement comment je fais venir des opérateurs, sachant qu'ils ne peuvent pas trop sécuriser leur opération avec un bout de Pinel. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on avait écrit en 2017, en disant sur une commune comme ça, mettons 20% de Pinel. Il ne se fera pas beaucoup d'opérations. Quand il se fait une opération de 20, c'est le grand maximum, donc ça fait 3-4 Pinel. Ça sécurise le promoteur, ça diversifie l'offre de logement en matière de locatif. Voilà, et on arrive à lancer la mécanique. Et donc je pense que le Premier ministre, ce matin, sur cette question du zonage, d'abord, il avait bien en tête la question, je pense qu'il partageait le questionnement qu'il y avait autour de tout ça. Donc, ce n'est pas une question qu'on peut traiter, c'est une question éminemment politique. Par contre, compter sur le réseau Procivis pour tomber sur le premier ministre du Logement qui suivra l'élection présidentielle, pour remettre ça sur la table, et puis pour questionner aussi et challenger les candidats à la présidence sur cette question-là.
Alors, il y a eu beaucoup d'activités sur votre stand. Hein. Aujourd'hui, c'était rempli de monde, etc. Donc, très dynamique, très puissant. C'est le premier jour du salon, bien évidemment, il y aurait deux jours. Demain est une journée aussi très dense. Hein. Je rappelle que ça s'arrête après-demain. Hein. Jeudi après-midi. Point de vue Procivis, ce salon, il augure quoi pour vous dans les semaines, les mois, l'année qui vient ?
Nous, d'abord...
Dans quel état d'esprit vous êtes là ?
Nous, on est dans un état d'esprit d'abord de conquête. C'est-à-dire que ce salon, il est, je le disais tout à l'heure quand je parlais des intervenants et des personnes présentes, le nombre important de personnes présentes, c'est aussi un grand moment pour le réseau. On se retrouvera tout à l'heure, tous les acteurs du réseau ensemble, pour faire un point sur cette première journée, pour faire un point sur chacun d'entre nous, mais même si on a eu des contacts récents. Mais c'est aussi un moment présentiel important. C'est aussi une préparation du réseau sur un certain nombre d'enjeux. Le premier, c'est l'élection présidentielle. Nous, on est un acteur de l'accession sociale, un acteur du logement social, un acteur du logement privé. Donc on a la prétention de penser qu'on est capable de créer une espèce de copie un peu globale sur l'ensemble de la chaîne du logement et d'arrêter de segmenter, comme c'est parfois un peu segmenté. Tout à l'heure, dans une séance plénière, j'ai réémis le souhait de voir toutes les grandes familles du logement, US1, HFPI, peut-être FNAIM, etc., à un moment donné, Fédération du bâtiment, à un moment donné, se mettre autour de la table en disant qu'est-ce qu'on a de commun, et parce que nos sorts sont liés, c'est-à-dire aujourd'hui vous ne sortez pas une opération de promotion immobilière sans une dose de logements sociaux, parce que tous les PLU et PLH vous l'imposent. Vous ne sortez pas une opération qui va faire apparaître de la mixité entre l'accession sociale et locative sans une approche avec un syndic de copropriété qui va piloter l'ensemble après. Donc on voit bien que toute la chaîne sur laquelle nous on est présents, comme toute chaîne, elle est liée. Et donc, c'est d'arriver, nous, à faire comprendre un petit peu ça, cet enjeu. Et puis, pour le réseau, y a des enjeux importants, puisque d'abord, on est aujourd'hui, nous, en très bonne santé financière. On a un niveau d'activité au 31 août qui est à un niveau très élevé, avec un point d'interrogation des mois à venir sur notre capacité à maintenir ce rythme-là, compte tenu de la difficulté d'avoir une offre de foncier qui nous permet de construire. Mais on a une très bonne, on a une année 2021 qui s'annonce plutôt pas mal en termes de commercialisation. Et puis après, on a aussi des envies, c'est-à-dire que le réseau a progressé sur le logement social en se réorganisant avec Procivis Logement Social. On est un réseau où une grande partie de notre activité est encore faite de façon assez traditionnelle. Et donc on est en train de voir quelques virages un petit peu forts sur la digitalisation. Voilà, tout ce qui s'est passé pendant la phase confinement nous a amené aussi à nous positionner. On est en train de se dire aussi que on répond plus aujourd'hui à des appels à projets en allant construire uniquement un immeuble. Aujourd'hui, quand vous êtes promoteur et que vous répondez à un appel à projet d'une collectivité locale, vous venez avec un bailleur social, vous venez avec des start-up qui vous amènent des prestations de services, vous venez avec des notions d'intergénérationnel. Voilà, donc les choses sont en train de se complexifier. Et je pense que le couteau suisse un peu que nous revendiquons être est capable de répondre à un certain nombre de sollicitations assez diversifiées dans le domaine de la construction.
Moi, je dirais même un ensemblier urbain très ancré dans son territoire.
Oui.
Et ce qui est bien dans votre réseau, et je le dis à nos auditeurs, et on se connaît bien maintenant avec la façon de faire, c'est que le réseau Précivis a une ADN très particulière. C'est cet ancrage très territorialisé.
Nous, on est complètement...
Donc, en prise directe, en fait, vous avez un sens pratique. Et c'est ce que je vois dans vos réalisations. Et j'ai fait un peu le tour de France, justement, pour rencontrer vos homologues. Franchement, je pense que ce principe d'altérité sur le plan urbain me plaît beaucoup, parce que les actifs immobiliers, cette classe d'actifs est toujours hétérogène. Elle est par nature hétérogène. Et donc, le fait que vous l'abordiez avec ce principe de réseau, finalement assez bien fédéré, je trouve que ça vous donne un regard qui est très pragmatique et qui est très... à la fois homogène mais aussi hétérogène, parce que vous ne traitez pas une région comme l'autre.
De toute façon, elles sont impossibles à traiter de façon
identique.
Oui,
mais on a toujours tendance à modéliser, standardiser avec un exécutif qui impose. Mais
la politique du logement, elle est un peu unique et elle est souvent écrite à partir de cas très spécifiques, celui de l'Île-de-France.
Mais elle devrait plus souvent s'inspirer.
Elle devrait être décentralisée. Moi, j'ai évoqué tout à l'heure dans une des tables rondes des présidents en séance plénière qu'il y avait deux grands principes à respecter. Un, c'est qu'il faut nous faire confiance et faire confiance aux élus locaux, parce que c'est eux sur leur territoire qui savent. Je dirais même quand vous êtes promoteur ou aménageur, vous savez très bien que à cet endroit dans le boulevard X, l'opération, elle peut valoir un certain prix, elle peut être positionnée d'une certaine façon. Puis vous êtes à l'autre extrémité du boulevard, de l'autre côté de la ville, parce qu'il y a un environnement qui n'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait la même opération. Donc l'élu local, il sait ça, le promoteur du territoire, il sait ça, et nos acteurs savent ça. Et puis l'autre élément qui est aussi, je pense, dans notre ADN, c'est de tenter d'expérimenter. J'étais tout à l'heure avec un des dirigeants du réseau qui est sur la région de Occitanie, et notamment sur une opération un peu complexe aujourd'hui qu'il essaie de faire dans le centre d'Albi, où la commande de la ville, c'est de dire on est UNESCO, donc on a du Airbnb à n'en plus finir, on veut retrouver de l'accession dans Albi. Voilà, il y a trois immeubles, qui peut me faire un truc peut-être un peu compliqué, sur lequel on ne va pas nécessairement gagner de grand-chose et peut-être rien et peut-être en perdre, mais un espèce de produit à la fois atypique, à la fois un montage un peu fin et capable de mobiliser des ressources que si on comptait le temps passé dessus, on verrait que la rentabilité de l'opération n'est pas extraordinaire. Donc nous, on est capable de s'engager sur ces choses-là parce qu'on connaît ces gens-là, on connaît les territoires et c'est notre ADN. Juste peut-être sur une dose, pas d'humour, mais historique. La loi de 1908 qui crée l'origine du réseau, elle dit que nous sommes là, nous, pour permettre l'accession à la propriété des classes laborieuse, méritante. Voilà, donc c'est un beau terme, la loi Ribot. J'adore. Et donc, voilà, on a gardé quand même c'est cet esprit-là et essayé de couvrir toutes les populations qui méritent aujourd'hui d'accéder à la propriété ou d'être locataire dans le parc social, dans le parc privé. C'est notre ADN avec la proximité territoriale. Vous ne ferez jamais la même opération et ce n'est pas moi en tant que président du réseau qui va dire à un des dirigeants des seuils du réseau qu'à tel endroit, il doit faire comme ça, parce que j'en suis totalement incapable. C'est collé au marché, et voilà. Et je pense que l'une des raisons aussi qui fait que ce réseau est en bonne santé financière, c'est aussi que le fait de coller au marché, c'est qu'on n'est pas en train de faire, entre guillemets, excusez-moi du terme, des conneries sur les territoires. Et donc, les opérations qu'on sort, ce sont des opérations qui collent et qui sont appréhendées correctement, et donc qui marchent.
Maîtrise des usages, toujours pareil.
Voilà. Exactement. Voilà.
Vous donnez aux gens ce qu'ils ont besoin, voilà, sans sortir du cadre, et ça me semble très bien. Une excellente punchline. Merci Yannick Borde. Voilà, c'est la conclusion de cette première journée. On a encore une interview qui va se profiler, mais encore une fois, les amis, vous pouvez télécharger sans problème le podcast. Yannick Borde, on se voit demain.
On se voit demain.
Voilà, j'anime la première table ronde à 9h30 avec le promoteur Alila qui sera présent pour parler de la politique de logement avec Vincent Mahé, le directeur général de la caisse de CDC Habitat, Caisse des dépôts et consignations Habitat, et, ainsi que Patrice Tillet, directeur général adjoint d'Action Logement Immobilier. On parlera aussi de construction. Surtout, vous restez connectés ici au 81e congrès et venez nous voir ici sur le stand de Procivis où nous avons délocalisé notre plateau. Merci Yannick Borde.
Merci, bonne soirée.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria.